Les orages maléfiques, chapitre 16. Pour la première fois, Noël se déroula en l'absence de l'aîné. Ce dernier avait cédé aux demandes pressantes de Rindra, qui souhaitait passer les fêtes de fin d'année dans sa famille. Depuis plusieurs années, son pays lui manquait, et la santé chancelante de sa mère les poussa à s'envoler pour Madagascar. Ils avaient annoncé abruptement leur intention de ne pas participer aux préparatifs et aux cadeaux. Les parents, choqués par le détachement et la sécheresse des propos, s'étaient tus. Ils ne voulaient pas entrer en conflit pour cela. Après tout, ils admettaient le bien fondé de ce voyage lointain. Ils ne contestaient pas la maladie de la maman, mais ils percevaient cette initiative comme une façon de rompre l'ordre des choses et aussi une fuite en avant. Ils se retrouvèrent à la maison avec le deuxième fils, qui se plaisait bien dans le nid familial. En dépit des efforts de chacun, l'atmosphère restitua l'air du temps. Il manquait quelque chose. Même la chienne devenait taciturne. Par habitude, le père s'employa au choix des vins et sa douce compagne confectionna un repas de qualité. Quant au fils, il s'occupa une fois de plus de l'ouverture des huîtres. Malgré cela, le cœur n'y était pas. Ils parlèrent de tout et de rien. Sans se l'interdire, ils n'abordèrent pas le sujet qui les préoccupait. C'était comme une entente tacite. Pour la première fois, le réveillon de Noël se déroulait en l'absence d'un des piliers de la famille. Triste moment que ce silence semblant précéder la tempête. Chacun se doutait qu'il se passait un événement anormal. Ils ouvrirent leurs cadeaux sans plaisir excessif et s'installèrent autour de la cheminée. Les bûches crépitant dans le foyer n'arrivaient pas à réchauffer l'atmosphère. La chienne errait dans le logis en quête de caresses, mais aucun ne s'attardait sur ses demandes incessantes. Ils étaient couchés quand le téléphone sonna. Le fils fut le plus prompt à répondre. Au bout du fil, un gendarme demanda à parler aux parents. Quelle bêtise avait-il pu commettre? Son bon sens le ramena à la raison. La gendarmerie n'appelle pas à 3 heures du matin pour un excès de vitesse. Ce devait être bien plus important. Le père arriva, prit le combiné. Soudain, il changea de couleur. La conversation fut brève. Il remercia son correspondant, reposa l'appareil sur son socle et s'effondra dans un fauteuil. Son fils le regardait. Pas un son n'arrivait à sortir de sa bouche. Son père était là, prostré dans la même position, lorsque son épouse le rejoignit. Elle comprit tout de suite ce qu'il ne pouvait pas dire. L'instinct maternel était plus fort que les mots. Elle lui prit la main. Finalement, ses lèvres se décrispèrent et il réussit à articuler « Ils ont eu un accident de voiture ». Un flot de larmes se mit à couler sur leurs joues. Ils pleuraient tous les deux. Le fils, tête baissée, s'approcha et joignit ses mains aux leurs. Ils restèrent quelques minutes soudés ensemble. Puis le père donna plus de détails. L'aîné et Rindra souffraient de multiples fractures, mais leur vie ne semblait pas en danger. Le gendarme utilisa une formule plus technique. Le pronostic vital n'est pas engagé. Ce jargon ne rassura pas pour autant. Il pensait à toutes les autres séquelles. Dans sa peur, il avait oublié de noter le numéro de téléphone que son interlocuteur lui avait communiqué. Il rappela la gendarmerie, après avoir expliqué sa problématique au standardiste de permanence. Il eut enfin la bonne oreille à son écoute. Il nota les coordonnées d'une compagnie d'assistance qui se chargeait du rapatriement vers un hôpital sur le territoire français. L'hôtesse de la société Assistance Service manifesta de la compassion et du professionnalisme. Elle donna un maximum de renseignements en s'efforçant d'adopter un ton rassurant. Elle précisa qu'un avion sanitaire affrété pour Indra et son mari décollerait dans 2 heures pour atterrir à Tananarive. Elle ne pouvait communiquer l'heure d'arrivée exacte. Cela dépendrait de l'aéroport et surtout du docteur de bord. Il était acquis qu'il serait dirigé vers un hôpital de la capitale. Elle lui promit de l'appeler dès qu'elle en saurait davantage. Ils prirent la décision de sauter dans le premier TGV en partance pour Paris. Le fils resterait à la maison et transmettrait les informations par le biais du téléphone portable. Il désirait voir et être au chevet des blessés le plus tôt possible. Ils se préparèrent rapidement. Le train partait à 6 heures. Le quai de gare désert en ce matin du 25 décembre ressemblait à un remake d'un film noir des années 50. Seul le TGV rutilant permettait de situer l'époque contemporaine. Le train s'ébranla, ils ne voyaient pas le paysage défiler à grande vitesse, mais leur fils gisant dans un amas de ferraille. Ils distinguaient Rindra, qui ne pourrait leur donner ce descendant tant espéré. Le convoi avançait vers la découverte de leur enfant. Qu'allait-il trouver sur ce lit d'hôpital? Ils n'osaient pas l'envisager. Ils eurent confirmation par SMS de l'heure d'arrivée de l'avion de rapatriement. Ils se poseraient à Orly à 16 heures. Ils auraient largement le temps de s'y rendre. Le jeune fils précisait qu'il pourrait se joindre à la cellule d'assistance-service qui, informé, attendrait à l'entrée ouest. À 15 heures, un taxi les déposa à Orly-Ouest. Un sentiment de solitude les gagna. Le personnel, qui devait les prendre en charge, n'était pas là. Ils se démenèrent dans tous les sens et finirent par appeler assistance-service. Comme d'habitude, l'employé qui réceptionna l'appel tenta de rassurer son interlocuteur. Peine perdue, il n'entendait rien. Il put enfin communiquer avec la personne traitant le dossier, qui confirma qu'une équipe médicale arriverait d'une minute à l'autre et de ne pas s'inquiéter. Ils avaient l'expérience de ces situations. Cela faisait 50 minutes qu'ils poireautaient. L'appareil devait se poser dans moins de 10 minutes. Ils doutaient du sérieux de leur correspondant. Une ambulance arriva et s'arrêta à côté d'eux. Une femme sauta prestement. Elle se présenta en précisant qu'elle était médecin et qu'ils allaient se rendre ensemble sur le tarmac pour évacuer les blessés. L'énergie de cette doctoresse leur redonna du souffle. Ils montèrent dans le fourgon qui se dirigea vers un portail. Elle échangea quelques mots avec un planton, et la barrière se leva. Le chauffeur se faufila parmi un dédale de cars, chariots et autres véhicules. La femme médecin leur précisa que l'avion se poserait dans 1 minute, qu'ils viendraient jusqu'à eux. Le Falcon 20 stoppa à 20 mètres. Un homme positionna une plateforme devant la porte de sortie. 2 hommes en blouse blanche sortirent de l'appareil. Ils vérifièrent rapidement le positionnement, firent un signe à l'équipe ambulancière et retournèrent à l'intérieur. Ces tergiversations parurent interminables aux parents qui voulaient voir les enfants au plus tôt. Enfin, les 2 hommes se présentèrent à nouveau, aidèrent à positionner 2 brancards, et lorsque tout fut OK, le préposé se mit à la manœuvre. La plateforme descendit lentement. Ils allaient enfin voir leur fils et leur belle-fille. Malheureusement, ils ne purent distinguer grand-chose, car tous 2 avaient un masque sur le visage et des tuyaux autour d'eux. La doctoresse s'adressa à eux pour préciser que leur état était satisfaisant et qu'ils étaient sous calmant pour ne pas être trop perturbés par le voyage. Les formalités furent abrégées, et l'équipe se dirigea vers l'hôpital. Seule la femme médecin resta avec les 2 accidentés, et elle avait autorisé les parents à s'installer à ses côtés. Elle les prévint que leurs enfants ne se réveilleraient pas avant 2 bonnes heures. Il ne fallait pas s'inquiéter. Leur état général était bon, tout ce qui devait être soigné ne présentait pas de danger pour leur santé.